En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le lundi 29 janvier 2006, Pierre Mazeaud, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, élu récemment le 12 décembre 2005, au fauteuil laissé vacant par Alice Saunier-Céité, rendait hommage à son prédécesseur. Alice Saunier-Céité fut la première femme recteur nommée en 1973, puis en 1976, elle fut secrétaire d'État aux universités. Retrouvons Pierre Mazeaud faisant l'éloge de son prédécesseur en séance.
Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le chancelier, messieurs les chanceliers honoraires, mes chers confrères, mesdames, messieurs. Alice Saunier est née le 26 avril 1925 à Saint-Jean-le-Centenier, en Ardèche méridionale. Nous gardons d'elle le souvenir d'une femme intelligente et passionnée, combative, malgré les épreuves qui ne lui furent pas épargnées. Une bâtisseuse qui a dédié sa vie à une cause républicaine, l'éducation. De la communale aux universités, elle s'est toujours placée en première ligne pour reprendre le titre du livre de souvenirs qu'elle publia en 1982. Pourtant, être née femme de père boulanger en 1925 dans un petit village ardéchois ne prédestinait pas à un destin national. Mais en ce temps-là, l'école communale était une institution respectée et l'ascenseur social récompensait les esprits brillants et les travailleurs acharnés. De fait, son enfance rigoureuse, sinon rude, fut placée sous le signe d'un travail consciencieux. Son père, nous dit-elle, considérait que l'école, plus encore que le suffrage universel et les tribunaux, garantissait la justice. Le moment venu, son instituteur fut formel, distinguant sa meilleure élève, il l'encouragea à poursuivre ses études. Ayant obtenu son certificat et devenue boursière, Alice quitte son village et devient pensionnaire à l'école primaire supérieure de Privas. L'environnement est austère. Dans ce couvent laïque, écrit-elle, régnait une règle sévère, strictement observée par des adolescentes montagnardes de ces multiples sectes huguenotes qui rivalisaient d'austérité. Sixième, cinquième, quatrième, troisième, l'élève est, paraît-il, indisciplinée, mais elle est la première dans toutes les matières. Au terme de ces 4 années, elle passe avec succès le concours d'accès à l'école normale des institutrices et fait son entrée en 1941, à l'âge de 16 ans, au lycée de Tournon. L'époque était difficile et les étudiants n'étaient pas épargnés par la rigueur du temps, comme en témoigne cet extrait du livre qu'elle consacra en 1997 au cardinal de Tournon. L'internat, écrit-elle, était glacial. Il fallait casser les stalactites qui pendaient au robinet des lavabos. Les douches ne fonctionnaient plus. Les doigts des mains et des pieds et les genoux des pensionnaires étaient gonflés et noirs d'engelure. Nous grelottions, ajoute-t-elle, la nuit et pendant les cours. Bref, nous avions froid, très, très froid. Le pire, ajoute-t-elle, était le réfectoire. Nous avions faim, très, très faim. En outre, le lycée de Tournon était partiellement occupé par les Allemands, ce qui n'empêcha pas la jeune Alice de se livrer à des activités de résistance. Elle écrit à ce sujet « Nous éprouvions pour eux, les Allemands, plus de pitié que de haine, même si chaque samedi soir, nous faisions le mur pour les combattre à mort. » Agent de liaison, elle porte des messages à des résistants à Lyon et dans le Vercors, qui connurent par la suite ou la mort ou la souffrance des camps de déportation. Parmi eux, le frère de l'une de ses camarades, Jacques Picard, qu'elle épousera au mois d'octobre 1947. Sa scolarité, qui s'achève par une année de formation professionnelle à l'Institut pédagogique de Valence, se poursuit avec succès. Mais l'enseignement qu'elle reçoit ne la convainc pas de poursuivre dans cette voie. Elle écrit alors « Nous avions l'impression de perdre notre temps, un temps précieux, puisque la guerre s'achevait, enfin, et que nous avions 20 ans. » Comme tant d'autres normaliens en rupture de vocation, elle rejoint alors l'université et s'inscrit en 1945 à la Sorbonne, où elle obtient une licence de géographie. Le couple qu'elle forme désormais avec Jacques Picard ne va pas tarder à quitter la capitale. Les problèmes de santé de son mari, revenu de Dachau, dans un état physique effroyable, expliquent leur départ pour Combloux en Haute-Savoie. Après un bref retour à Paris, il partit vivre en 1949 près d'Innsbruck, en Autriche, où Alice a accepté une place de répétitrice dans un lycée français installé pour les troupes d'occupation. Ce séjour influera sur sa carrière, puisque son intérêt pour les Alpes, dont je reparlerai, remonte à cette période. En attendant, la santé de Jacques Picard se dégrade et les oblige à rentrer à Paris au mois de juillet 1950. Quelques mois plus tard, c'est elle qui est hospitalisée pour une pleurésie. L'un et l'autre ne sortiront du même hôpital qu'en juillet 1951. Alice Saunier soutient alors son mémoire de diplôme d'études supérieures de géographie, puis est nommée en 1952 dans un collège technique de la région parisienne. Elle enseigne le français, l'histoire et la géographie. Les années passent, elle a désormais deux enfants, mais les épreuves continuent. La santé de son second fils est irrémédiablement détruite, c'est le drame d'une vie. Pour survivre peut-être, elle se réfugie alors dans le travail. Alors qu'elle fait ses premiers pas dans l'enseignement, elle réalise que son environnement professionnel connaît de profondes mutations, lesquelles l'accompagneront durant toute sa carrière. Les élèves sont de plus en plus nombreux du fait du taux de naissance élevé dans la France d'après-guerre. Parallèlement, la scolarité obligatoire est portée de 14 à 16 ans. Le baccalauréat est délivré avec générosité, les portes des universités s'ouvrent, on construit vite et mal de nouveaux bâtiments pour accueillir des flots croissants d'élèves et d'étudiants. On tente de faire face aux problèmes d'encadrement en faisant appel à des instituteurs détachés, puis titularisés dans les collèges. On recrute des maîtres auxiliaires, des titulaires de la licence. La pression syndicale augmente, les responsabilités se diluent, le lien avec l'élève se distend. D'emblée, Alice Saunier porte un regard critique sur la façon dont les pouvoirs publics accompagnèrent, ou plutôt n'accompagnèrent pas, ces changements. Vers 1955, à l'âge de 30 ans, la politique éducative, dit-elle, la politique éducative de la France, me paraissait une improvisation démagogique, dépourvue de perspective et soumise au poids croissant du syndicalisme et du marxisme. Rien n'était préparé. Ce fut une improvisation incohérente et fatale. Elle dénonce également l'état d'esprit de ses concitoyens, les Français de manière générale, qui ne s'intéressaient, d'après elle, plus qu'à la consommation et aux loisirs. Les instituteurs qui ne penseraient plus à servir la République, mais à s'en servir. Une certaine nostalgie ressort de ses écrits. « Je souffre, dit-elle, de la décadence de l'école, de la culture et de l'intelligence française. » Sa conclusion est un bilan sans concession. Le résultat, c'est une jeunesse qui ne sait correctement ni lire, ni écrire, ni compter, ni se situer dans l'espace géographique mondial, ni dans le temps de l'histoire. Les résolutions qu'elle prend alors ne sauraient donc surprendre. « Je décidais, écrit-elle, de quitter ce milieu d'insatisfaction et d'aigreur, de sécurité égoïste et d'incompréhension des dures réalités du monde, de dépression nerveuse et d'absentéisme. À la fuite vers les vacances, les congés de maladie, le syndicalisme ou la politique, je préférais la fuite définitive vers un autre métier. » En 1958, elle est admise en qualité de chercheur au Centre national de la recherche scientifique. Elle a 33 ans. Elle entame donc sa carrière universitaire. Cette nouvelle vie, elle la doit en partie au professeur Raoul Blanchard, ce grenoblois, père de la géographie alpine française, président de la section de géographie du CNRS et membre de notre compagnie, qui s'est intéressé à ses travaux. Elle entre au comité national du centre, poursuit ses recherches, multiplie les études sur la géographie humaine des vallées alpestres. Ainsi, elle consacre sa thèse au massif de l'Ötzal et une thèse supplémentaire au Sud-Föhn qui souffle sur Innsbruck. Elle publie de nombreuses contributions sur le Tyrol, l'économie, la culture du maïs, les paysans, le tourisme. Seuls les pays septentrionaux, la Scandinavie, la Finlande, l'Islande, le Groenland, occuperont dans ses travaux futurs une place comparable. Sa période au CNRS s'achève en 1963. Lorsqu'elle débute dans un emploi de maître de conférence de géographie à Brest. Alice est alors animée par une passion scientifique réelle. Elle ne sous-estime pas non plus les joies de l'enseignement. Pour autant, son jugement reste toujours incisif. Elle reproche toujours à ses collègues de traiter leurs étudiants avec désinvolture. Surtout, elle constate, comme dans les collèges et les lycées, le résultat catastrophique d'une massification qui, faute d'avoir été préparée, ne méritait pas d'être qualifiée de politique d'ouverture. Baisse de niveau moyen des candidats, construction hâtive de bâtiments mal conçus, imprévision ou improvisation de l'encadrement. Le nombre de chargés d'enseignement ne cesse de croître. On crée des emplois d'assistants et de maîtres assistants. Les amphithéâtres sont combles. Elle écrit alors, de ma nomination à Brest en octobre 1963 jusqu'à la rentrée de 1967, je voyais s'accélérer la dégradation du niveau des étudiants, des études et des diplômes. Elle déploie des efforts considérables pour faire face à cette situation. Elle participe à la transformation des institutions universitaires de Brest, dépendantes de Rennes, en une université autonome. Elle accompagne l'élargissement des formations et des débouchés, recrute, dresse des plans de nouveaux locaux. L'ascension rapide qu'elle va connaître ne doit donc rien au hasard. Elle devient professeure, puis en 1966, directeur du Collège littéraire universitaire de Brest, et finalement en 1968, doyen de la faculté. Elle est la première femme à atteindre en France un tel niveau de responsabilité dans le monde universitaire. En outre, elle ne cessera plus désormais de conjuguer action et réflexion. Dès 1967, le ministre de l'Éducation nationale, Alain Perfitte, l'appelle à siéger avec une dizaine d'autres universitaires et inspecteurs généraux représentant les principales disciplines et les différents ordres de facultés au sein d'une commission, dite la commission Capelle, du nom du recteur qui la présida. Tous étaient soucieux de mettre fin à ce qu'elle considérait comme une absurdité qui encourageait la fuite en avant vers les échecs universitaires. Mais, alors que s'achèvent les travaux de la commission Capelle, surviennent les événements de mai 1968. Alice est à Brest, évidemment. Dans ses mémoires, son jugement est étrangement presque mesuré. Sans doute dénonce-t-elle toute cette agitation, teintée localement d'autonomisme, ainsi que ceux qui l'animaient. Le ton est ironique, parfois mordant. Elle écrit ainsi, en 1968, la saleté des bâtiments fut admise comme une expression des libertés universitaires et de l'intellectualité créatrice. Mais elle semble voir dans ce chaos un peu vain comme l'aboutissement inéluctable de trop d'années de relâchement. Elle tente de maintenir le cap, de préserver son autorité. De fait, c'est bien l'autorité qu'elle avait acquise qui lui permet d'éviter, malgré des incidents, que des dégradations trop graves ne soient causées aux locaux et aux biens. Elle entendait être respectée de ses étudiants, et elle l'était, dans la mesure, bien sûr, où on pouvait l'être au printemps 1968. Elle relate dans ses mémoires une histoire significative. Commentant à la télévision l'agitation étudiante, elle avait fait valoir que certaines violences d'expression n'étaient en fait que des explosions de timidité. Le lendemain, à l'entrée du bâtiment d'histoire et de géographie de l'Université de Brest, on avait découvert l'inscription suivante. Alice, et si les étudiants timides te disaient merde ? Alors qu'elle relatait cette anecdote quelques jours plus tard à Edgar Faure, celui-ci lui répondit. Quel respect envers vous, Alice. Ils ne vous disent merde qu'au conditionnel. Elle est désormais convaincue de la nécessité d'ouvrir l'université sur le monde extérieur et de mettre en place des formations débouchant sur les activités professionnelles. Son expérience trouvera des traductions dans la loi d'orientation, dont Edgar Faure annonce alors le dépôt, mais qui sera par la suite, selon ses propres termes, dénaturé. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre Jérôme Saïté, inspecteur général de l'enseignement supérieur, l'un des rédacteurs de la loi. Séparée de Jacques Picard, elle l'épouse en 1968 et après sa mort en 1972, encore une preuve, conservera son patronyme. Donc Alice Saunier-Saïté continue à dénoncer l'improvisation des décisions et le relâchement des mentalités. Elle déplore que l'université, lieu de l'apprentissage et de l'invention, devienne la foire des cogitations libérées, la braderie de tous les diplômes, la cour des miracles de tous les marginaux. Au ton qu'elle emploie, on perçoit que sa vie et sa carrière vont connaître nécessairement de nouveaux changements. De fait, à la fin de l'année 1969, elle quitte Brest. Elle est chargée de créer et de diriger, dès la rentrée suivante, l'Institut universitaire de technologie de Sceaux qu'elle considère comme l'un des plus beaux de France. Elle écrit alors « Une nouvelle carrière commence pour moi ». Une fois de plus, tout est à faire. Le travail ne manque pas, les bâtiments, leur équipement, les étudiants à accueillir, les milieux économiques à approcher. Elle pourvoit des emplois, faisant notamment appel pour une maîtrise de conférence à un certain Lionel Jospin. En même temps, elle participe en tant que vice-président aux réunions du Conseil d'université de Paris 11, dont relevait l'Institut universitaire de Sceaux. Son jugement sur Paris 11 est sévère, un de plus. Discipline pulvérisée, éparpillement des locaux, invraisemblables erreurs grotesques, décisions aberrantes, réunions interminables. L'expérience va durer cependant 3 ans. En juillet 1973, Alice Sauniesset est nommée recteur de l'Académie de Reims. Elle a finalement accepté ce qu'elle avait refusé à 2 reprises, à Alain Perfitte d'abord en 1967 et ensuite à Edgar Faure en 1969. Une fois encore, elle doit assumer une fonction qui n'avait jamais été confiée jusqu'alors à une femme. L'Académie de Reims n'a été créée qu'une 10aine d'années auparavant pour désengorger en quelque sorte le rectorat de Paris. 26 000 fonctionnaires et 300 000 élèves sont répartis sur 4 départements. Il y a comme du retard à rattraper. Madame le recteur travaille avec les enseignants, les directeurs, les inspecteurs, les représentants syndicaux. Elle met l'accent sur l'alphabétisation des jeunes enfants et travailleurs immigrés, s'intéresse aux enfants des bateliers et des forains. Elle s'efforce de développer l'enseignement technologique en lien avec les milieux économiques. Elle cherche à attirer quelques-unes de ces grandes écoles qui étouffent, dit-elle, à Paris. Elle apprend qu'un recteur doit être un bâtisseur et le bon intendant d'un patrimoine immobilier considérable. Alice Sauniesset était faite pour la fonction. Je me souviens d'ailleurs de notre rencontre à cette époque. Ce n'était pas la première, puisqu'en 1968, ayant été candidat aux élections législatives dans les Hauts-de-Seine, alors qu'elle dirigeait encore l'IUT de Sceaux, je l'avais rencontrée. Gaulliste, en effet, elle m'apporta son soutien, et j'ai d'ailleurs été élu. Mais en 1973, c'est en tant que secrétaire d'État chargé de la jeunesse et des sports et des loisirs que je me rendis à Reims pour une inauguration. Elle m'invita à séjourner à l'hôtel du recteur, plus confortable que la préfecture. Le matin, je fus réveillé par des cris en provenance du salon. Curieux, sinon inquiet, je poussai la porte et je la découvris en train de s'escrimer dans un assaut où elle n'était pas avare d'exclamations. Ce n'était pas le seul sport qu'elle pratiquait. Elle aimait les automobiles, elle pilotait même de petits avions. Je l'ai décorée un jour de la médaille de la jeunesse et des sports. Elle était en effet sportive. Elle avait du courage, de la volonté, de la ténacité, sans omettre bien sûr l'esprit de compétition. Le 12 janvier 1976, c'est l'événement, Jacques Chirac lui confie le secrétariat d'État aux universités, occupé jusqu'alors par Jean-Pierre Soisson. Cette nomination n'est pas sans une signification symbolique. Durant la campagne présidentielle de 1974, la place des femmes est devenue une question politique majeure. Jacques Chirac dirige alors le gouvernement le plus féminisé de la Ve République, ouvrant une voie qui s'est par la suite imposée à tous ses successeurs. Pour autant, Alice Sauniesset n'est pas là pour témoigner. « Être ministre pour agir », écrit-elle dans ses mémoires. Délibérément, elle inscrit ses nouvelles fonctions dans le prolongement des précédentes. Je la cite « Quant à moi qui connaissais bien et depuis longtemps les responsables de l'administration centrale et les problèmes des enseignements supérieurs, ces fonctions gouvernementales me semblaient simplement une suite dans une carrière de responsabilité croissante au service de l'État. » Le poste n'est pas sans danger. Jacques Chirac le sait puisqu'il répondit à ses remerciements de la façon suivante « Ne me remerciez pas, ce n'est pas un cadeau ». Quant au président de la République, pour sa part, il lui dit à l'issue de son premier conseil des ministres le 14 janvier « Sachez bien en tout cas que je ne vous en voudrais pas de ne pas réussir là où tous vos prédécesseurs ont échoué. Il faut dire que c'est à la tête d'une flotte considérable qu'elle est placée, universités, grandes écoles, instituts, 12 millions de mètres carrés de bâtiments d'État, 115 000 fonctionnaires et près de 800 000 étudiants. Le sixième budget civil de la nation. Cette flotte voguait sur un océan agité, plein d'orages et de récifs. Elle risquait le naufrage à tout instant. Alison Yesseïté connaît les raisons de ces dysfonctionnements. Il découlait des transformations sociales, culturelles et économiques qu'avait connues la France depuis 1945 et de la gestion désastreuse de l'effet de masse subi par les universités. Elle pensait que l'autonomie qui leur avait été donnée par la loi d'orientation de 1968 était une bonne chose, mais qu'à l'épreuve des faits, le remède s'était avéré en quelque sorte, une fois encore, pire que le mal. Qu'était-il advenu ? Selon elle, l'irresponsabilité, la désorganisation, la politisation, la destruction des relations maître-élève, l'abandon des critères de valeur, la négation de l'effort, un égalitarisme mortel pour la science. D'emblée, le nouveau ministre doit d'ailleurs faire face au désordre provoqué par le fameux arrêté du 16 janvier 1976 sur la réforme des seconds cycles universitaires. Ce texte, bien que préparé par son prédécesseur, répondait à l'un de ses objectifs, l'adaptation innovante des formations. Il donnait aux universités l'initiative pour définir les enseignements, leur intitulé et leur contenu, tout en laissant au ministère le contrôle des habilitations relatives à la délivrance des diplômes nationaux. Alice Saunier-Saïté est accusée de livrer l'université à une compétition sauvage voulue par le patronat. Pour sa part, elle estime que les syndicats marxistes d'enseignants et d'étudiants firent de ce texte leur cheval de bataille sur une présentation fausse de ses dispositions. La vague d'agitation déferle jusqu'à la fin du mois d'avril. Le ministre tient bon, déclare sans embâge que les diplômes ne seront pas bradés en dépit de l'arrêt des cours, fait valoir au Premier ministre qu'elle est prête à annuler l'arrêté incriminé si l'ordre lui en est donné, mais qu'elle en tirerait les conséquences en présentant tout naturellement sa démission. Finalement, les cours reprennent. À la surprise générale, la fermeté a payé. Ainsi, Alice Saunier-Saïté a-t-elle illustré dans les faits les propos qui fut le sien bien des années plus tard, en 1999, au cours d'une conférence sur les femmes dans la cité qu'elle présenta ici même à l'Académie des sciences morales et politiques. Ce n'est pas le caractère masculin ou le caractère féminin, mais le caractère tout court qui compte. Le caractère n'est pas la seule qualité dont elle fit preuve, dès son entrée en fonction. Elle y ajoute bien sûr une profonde connaissance des dossiers et une grande familiarité avec le monde universitaire, dont la complexité n'avait pas de secret pour elle. Fondée sur sa propre expérience, ses priorités sont clairement identifiées et ne varieront pas. L'ouverture des facultés au monde extérieur, et notamment au milieu professionnel, la promotion de la recherche fondamentale, la restauration de l'image de l'université dans la nation. Elle réforme ainsi, non sans mal, les instituts universitaires de technologie, créée 10 ans auparavant, moyennant une participation accrue des professionnels dans la formation, les IUT devaient satisfaire à sa volonté d'ouverture et au-delà, aux défis de l'emploi. Dans le même esprit, mais avec davantage de sérénité, elle se penche sur les écoles d'ingénieurs, favorisant les enseignements technologiques, la formation par la recherche, les options liées aux techniques de pointe et les passerelles avec le monde socio-économique. Elle s'engage dans une réforme du CNRS qu'elle tente de débarrasser de structures trop complexes et de circuits de décisions redondants. 2 décrets dotent le centre d'une nouvelle organisation, peut-être plus nerveuse, mais certainement plus efficace. La question des locaux et des équipements universitaires l'occupera également. Pour répondre à l'augmentation des effectifs étudiants au cours des années 1960, une politique active de construction avait été entreprise. Le ministre infléchit les priorités. Désormais, l'impératif n'est plus, sauf exception, de construire, mais d'entretenir le parc immobilier et de mettre en conformité des bâtiments anciens ou récents mal bâtis. Pourtant, à intervalles réguliers, de nouvelles difficultés se présentent. Ainsi, en 1978, c'est de nouveau la grève, déclenchée cette fois par les assistants, mécontents d'un décret dont certaines dispositions touchaient à l'organisation de leur recrutement et de leur travail. Un autre qu'Alice Saunier-Saïté aurait par précaution évité de toucher aux carrières. Elle juge pour sa part que dans le contexte général du boom universitaire des années 60 et 70, le ministre n'a pas le droit de faire l'impasse sur ces questions. Déroulement des cursus, mobilité des enseignants, réforme des statuts des personnels universitaires, recrutement et transformation des emplois doivent être au contraire au centre, dit-elle, des préoccupations ministérielles. Le ministre doit encore régler des questions difficiles, organisant en 78 et 80 le transfert de l'université de Vincennes à Saint-Denis et d'une partie des enseignants de Nanterre à Malakoff. Nombre d'enseignants, en effet, désiraient quitter la faculté de Nanterre, encore sous les soubresauts de 1968. Alice prit un arrêté en ce sens. Le Conseil d'État ne pouvait que l'annuler. C'est alors que mon ami et maître Jean Foyer intervint. En sa qualité de président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, il fit voter dans un projet de loi qui n'avait rigoureusement aucun lien avec le dit arrêté, un amendement que nous qualifierions aujourd'hui de cavalier. Jean Foyer, connaisseur rigoureux de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sait que de nos jours, une telle astuce serait immanquablement censurée. En définitive, surmontant les obstacles, Alice Saunier-Saïté est devenue l'homme fort du gouvernement, comme l'a écrit Michel Droit, non sans humour. On l'admire, dit-il, on l'aime. Et ce qui est peut-être meilleur en signe encore, on la craint, on la déteste. Durant 5 ans, en première ligne sur tous les fronts, elle ne cessera de se battre, recevant parfois autant de coups qu'elle en donne. On lui appliquerait sans mal ce mot attribué au général de Gaulle, « Les femmes seront bientôt les seuls hommes qui nous resteront ». Son autorité tire sa force de sa compétence et de son ardeur. Initialement désignée pour la cadrer, ses conseillers juridiques m'ont avoué l'avoir très vite suivie sur tous les fronts. Mais en raison même de la force de ses enthousiasmes et de la vigueur de ses engagements, elle sera souvent caricaturée, voire diabolisée. Son image de femme dure et intransigeante la blessera. Comment aurait-il pu en être autrement ? Elle était naturellement directive, elle aimait le combat. Elle était également impulsive. Dans son jardin, elle faisait planter des arbres, puis demandait qu'on les enlève. Faisait creuser une piscine, puis demandait à ce qu'elle soit comblée. Achetait une voiture, la revendait. En politique, elle agissait de même. Ses conseillers juridiques s'en souviennent. C'était Bonaparte à Marengo, m'a dit notre confrère, le professeur Roland Drago. Elle était plus sabreuse qu'escrimeuse, m'a confié le professeur Pierre Delvolvé. Elle était capable de remise en cause radicale, comme d'engagement fulgurant. Mais elle ne lâchait rien et s'attira quelque inimitié, notamment parmi les collaborateurs du Premier ministre. On doit dire en effet qu'elle ne ménageait pas le cabinet de Raymond Barre, notre éminent confrère, lui-même ancien professeur de ce que nous appelions à l'époque l'économie politique, donc tout autant sensible qu'elle aux problèmes de l'université. Les témoins de cette époque savent pourtant que derrière cette façade se trouvait une très grande générosité. Il n'ignore pas non plus tout ce qu'il y a d'intime dans le caractère d'un homme ou d'une femme. Bertrand Saint-Cernin m'a sans doute livré la clé de cette personnalité impulsive en me disant « Sous ses allures de lionne, on la sentait secrète et solitaire. » Raymond Saint-Paul abonde dans le même sens. Ses excès étaient la manifestation de sa révolte. Révolte contre la maladie, celle de son fils en particulier, dont elle ne parlait pourtant jamais. Révolte contre la souffrance, la mort qui jalonnèrent toute son existence. C'est pourquoi elle tiendra, conservant au sein du gouvernement une position solide. Dans Le Pouvoir et la Vie, le président de la République de l'époque en témoigne d'ailleurs dans les termes suivants. Alice Saunier-Saïté avait créé autour d'elle, parmi les ministres, une sorte d'aura affectueuse. Quand elle arrivait au Conseil, elle déclenchait une commotion. On l'interpellait, la tutoyait, l'embrassait. je partageais, ajoute-t-il, cette affection. Elle raconte pour sa part qu'il lui demanda un jour, « Tous vos collègues du gouvernement vous aiment. Dites-moi pourquoi ?» À cela, elle répondit que dans les projets communs, elle apportait un concours loyal et ne tirait jamais la couverture à elle. Finalement, le 10 janvier 1978, le secrétariat d'État aux universités devient un ministère à part entière. Pour son titulaire, cela ressemblait fort naturellement à une promotion. Au demeurant, elle n'eut pas à rougir des résultats qu'elle obtint. Notre confrère, le professeur Roland Drago, considère ainsi que la période 1976-1980 a été pour les universités, pour les grands établissements, pour la recherche, pour les bibliothèques, une période riche que l'histoire reconnaîtra. Même si tout son héritage ministériel fut en partie liquidé en 1981-1982, il demeure que grâce à elle, l'enseignement supérieur s'est dans une certaine mesure pacifié. Les universités se sont ouvertes sur le monde extérieur. La réforme du second cycle est entrée dans les mœurs. La crédibilité des IUT n'est plus discutée. La promotion de la recherche scientifique a été consolidée. Quoi qu'on en dise, ces objectifs ne sont pas loin d'avoir été atteints. La description de son œuvre ministérielle ne serait pas complète si j'oubliais d'évoquer le legs qu'elle fit involontairement au droit constitutionnel. C'est en effet grâce à elle, mais aussi aux législateurs et en particulier à notre collègue Jean Foyer, que fut dégagé le principe fondamental reconnu par les lois de la République de l'indépendance de la juridiction administrative. La grande décision du 22 juillet 1980 intervint en effet à propos d'une proposition de loi de validation présentée par Jean Foyer lui-même et faisant suite à l'annulation d'un décret signé en 1977 par Alice Saunier-Saïté. Ce décret, qui instituait un comité technique paritaire central des personnels enseignants de statut universitaire, avait été annulé en 1980 par le Conseil d'État. Le président du Conseil constitutionnel, que je suis encore pour quelques petites semaines, ne pouvait passer ce fait sous silence. Comment oublier par ailleurs de rappeler ici son action bienveillante envers les académies quand elle fut rue de Grenelle. Ayant rendu visite à Jacques Rueff, qui était alors chancelier de l'Institut, elle s'aperçut de l'état pitoyable dans lequel se trouvait le palais. Elle fit alors en sorte de créer un certain nombre de postes d'huissiers ainsi que de débloquer les crédits qui permettraient d'aménager les salons de réception du rez-de-chaussée, ce qui fut réalisé par notre confrère Édouard Bonnefous, qui avait succédé à Jacques Rueff, décédé en 1978. Mais le temps du gouvernement va prendre fin. Les souvenirs du ministre s'achèvent sur une profession de foi. En quelques lignes, l'élève de la communale justifie ce qui fut le combat de sa vie dans des termes d'une troublante actualité. Le rôle des enseignements supérieurs est plus nécessaire et plus déterminant aujourd'hui qu'à aucune autre époque de notre histoire. En dispensant au plus grand nombre une formation de niveau élevé, en suscitant le progrès des sciences et des techniques, il contribue à l'atténuation des inégalités entre les hommes. En inculquant le goût de la vérité, de la qualité et de la liberté, il pourrait enraciner ces vertus sans lesquelles il n'est pas de vie démocratique possible. C'est fort de cette conviction qu'elle s'est efforcée de donner aux universités davantage de responsabilité, d'éloigner d'elle ce qu'elle appelle le péril de la démagogie. Sans doute, son sens critique ne s'embarrasse-t-il pas toujours de nuances, comme lorsqu'elle écrit de l'idéal républicain, de la déclaration des droits de l'homme, de la morale du travail et de la vérité, de ses bases des leçons de nos instituteurs jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, que reste-t-il dans nos enseignements d'aujourd'hui ? Il n'y a plus d'idéal, ajoute-t-elle, mais une idéologie. Il n'y a plus de fraternité, mais l'esprit de revanche d'une classe de fonctionnaires. Il n'y a plus de travail, mais le culte du temps libre. Il n'y a plus de vérité, mais la désinformation haineuse et radoteuse du marxisme qui s'étale jusque dans les manuels scolaires. Le constat qu'elle dresse, s'il a souvent la vérité de ses caricatures, qui en forçant le trait révèlent les vérités, on a aussi la décourageante cruauté. Le résultat, nous dit-elle, ce sont ces bacheliers bégayants et incultes, déchirés entre l'espérance, l'ardeur inhérente à la jeunesse, et l'exemple de cynisme destructeur au nom d'une idéologie de ceux des maîtres qui, depuis longtemps, détiennent le pouvoir dans l'éducation nationale. Ces revers ne l'abattent jamais, et ces déceptions sont surmontées par le sentiment du devoir accompli. « Ma joie et ma fierté, dit-elle, sont d'avoir pu prouver que les universités et les écoles d'ingénieurs françaises pouvaient rester, devenir ou redevenir les meilleurs du monde et un havre de tolérance et de science pour les plus brillants cerveaux français ou étrangers. » En définitive, elle nous livre la clé de son combat, son inquiétude, son exigence, s'enracine dans une ambition pour la France. C'est là une dernière fois, je la cite, « Si d'autres maintenant s'acharnent à préparer la contre-épreuve, en clochardisant nos enseignements supérieurs, en soumettant le travail scientifique au contrôle politique et syndicaux, en contraignant nos élites à l'exil professionnel, alors pauvre France, pauvre monde. En effet, quel autre pays, ajoute-t-elle, quel autre peuple pourrait faire reverdir le paradis perdu de l'humanisme occidental ?» Cette question, elle la pose à ses successeurs. 1981 est là. En mars, elle est chargée d'exercer parallèlement les attributions déléguées à Monique Pelletier, ministre déléguée de la Famille et de la Condition féminine. Mais cette nouvelle responsabilité sera brève, prenant fin avec la défaite de la majorité aux élections présidentielles. Pour autant, l'heure de la retraite n'est pas venue pour Alice. D'ailleurs, cette heure ne viendra jamais. Alice Sonnier-Séété retrouve ses fonctions professorales, devenant en 1981 la première femme nommée au Conservatoire national des arts et métiers. Son arrivée fut vivement contestée par les enseignants qui ne la connaissaient que de réputation, sans doute à travers le canard enchaîné. Mais l'ébullition retomba très vite. Alice tint en effet à se soumettre aux procédures normales d'élection et donc au jugement de ses pairs pour l'attribution d'une chaire qu'elle aurait d'ailleurs pu s'octroyer. À l'issue de ces démarches, le jugement fut unanimement favorable. Par la suite, elle s'intégra harmonieusement dans sa nouvelle communauté. Elle y fut forte, heureuse, m'a dit Raymond Saint-Paul. Jusqu'en 1994, elle occupera la chaire de géographie de l'espace, créée d'ailleurs pour elle. De ses 13 années passées au CNAM, elle dira « ce furent les meilleures années de toute ma carrière ». Lors de son départ, qui correspondait à son entrée dans notre académie, ses confrères et amis lui offrirent un volume de mélange coordonné par Jean Bastier et qui porte ce titre inspiré de Marc Bloch, « Apologie pour la géographie ». En 1981, elle reprend également ses travaux de recherche. Elle renoue avec les publications scientifiques. Elle raconte ses souvenirs. Elle développe ses idées sur l'enseignement supérieur. Elle anime des séminaires de réflexion qui aboutissent sous sa direction à la rédaction de plusieurs ouvrages sur l'État, remettre l'État à sa place, sur l'Europe, une Europe à la carte, elle retrace de grands destins, ne laissant pas au hasard le choix de ses personnages. C'est ainsi qu'elle fait revivre le cardinal de Tournon en 1997, ce qu'elle projetait sans doute depuis longtemps, puisqu'elle écrit d'emblée que ce livre est l'expression de mon admiration envers le fondateur du lycée de Tournon. Sans doute, au-delà du souvenir de sa propre jeunesse, se reconnaissait-elle dans ce personnage qu'elle décrit comme un homme d'action au service de l'État, qui montra un souci permanent des intérêts de son pays, qui fut toujours soucieux d'aider les savants et les artistes et pour lequel l'instruction primait tout. Elle relate la vie des Courtenay en 1998, peut-être en raison du fait que dans cette étonnante dynastie, les femmes jouèrent un rôle majeur. Elle se consacre enfin au comte Boissy d'Anglas en 2001, dans un livre qui lui permet une nouvelle fois de renouer avec l'Ardèche, son département natal, et sans doute également de remercier celui auquel appartint l'épée qui lui fut remise dans les salons de l'hôtel de ville de Paris. En même temps, elle préside le club des explorateurs, administre l'Institut océanographique de Monaco, où elle succède à notre confrère Edouard Bonnefou, et veille sur la Société de géographie de Paris. Elle est associée à l'Institut d'Égypte et à l'Académie des sciences d'Islande. L'Islande fut en effet un pays important pour elle, Alice étant personnellement liée avec sa présidente. Elle effectue des voyages dans le Grand Nord, réalisant même, m'a-t-on raconté, un documentaire sur la vie des Inuits. Mais elle n'oublie pas la politique. Depuis 1973, elle était conseillère municipale et même adjointe au maire d'une petite commune de Corse, dénommée Manso, située dans la vallée du Fango. Il s'agissait du village natal de Jérôme Saïté. Elle était par ailleurs secrétaire générale adjointe du Parti républicain depuis 1978. Son échec aux élections législatives de mars 1978 en Moselle, dans la deuxième circonscription de Metz, ne fut pas un traumatisme. Dans un contexte local délétère, alors que le milieu politique local s'était ligué contre elle, ses 21% de voix au premier tour furent un résultat plus qu'honorable. Pour preuve, élue conseillère de Paris en 1983, elle fut réélue en 89 et 95. Elle se consacre au fil de ses mandats à Paris aux problèmes de la circulation, de la police, de la sécurité dans la capitale, puis aux questions économiques, au tourisme et enfin à l'aménagement urbain. Elle exerce les fonctions d'adjointe au maire du 6e arrondissement. Elle préside le Mouvement national des élus locaux, le MNEL, de 1990 à 1998, après en avoir été la vice-présidente dès 1983. Elle fonde la Mutuelle des élus locaux, puis crée la Caisse des retraites de ces mêmes élus locaux, qu'elle préside également. C'est en 1995 qu'elle devient membre de l'Académie, occupant le siège auparavant dévolu au ministre Bernard Chenot. Alice Saunier-Saété nous a quittés le 5 août 2003. En elle, je salue, avec le président de la République, une femme d'un grand courage dans sa vie personnelle, dans sa carrière professionnelle, dans ses engagements universitaires et dans son action d'élu local. Un personnage, mais surtout une personnalité qu'il est rare de croiser, m'a dit récemment le ministre François Goulard qui était à son cabinet. Je rends hommage à son courage, à sa lucidité pour son grand combat en faveur de l'ouverture de la modernisation de l'université française. Pionnière de l'accès des femmes aux plus hautes responsabilités, elle restera toute sa vie fidèle à l'universalisme et aux valeurs méritocratiques de la République. Voilà, mes chers confrères, ce qu'il m'appartenait de dire de celle qui fut des nôtres, qu'immortelle elle restera. En deux mots, elle fut sa vie durant une grande dame.
Vous venez d'entendre Pierre Mazeaud, actuellement président du Conseil constitutionnel depuis 2004, récemment élu en 2005 membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui faisait l'éloge de son prédécesseur, Alice Saunier-Saité, devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques.